Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler du front ukrainien et des capacités respectives des armées russes et ukrainiennes à l'approche du printemps et d'une potentielle offensive ukrainienne, émission centrée autour d'une remarquable étude de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, intitulée « Guerre en Ukraine, analyse militaire et perspective ». J'ai le plaisir de recevoir ces deux auteurs, donc tout d'abord Philippe Gros, maître de recherche à la FRS, spécialisé dans l'analyse notamment des capacités militaires et des stratégies opérationnelles. Donc bonjour, bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour, merci beaucoup à vous de votre invitation.
Et ensuite, Vincent Touré, que les auditeurs connaissent bien, parce que vous étiez venu il y a quelques mois nous parler de l'histoire de la stratégie soviétique puis russe, chercheur seulement associé désormais à la FRS, puisque vous nous avez quitté, vous êtes parti pour le Canada pour y faire votre thèse, et on enregistre donc tout ça à distance. Bonjour et bienvenue à nouveau dans le podcast, Vincent.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors, je vais dire que c'est une étude qui fait donc 80 pages environ et qui est évidemment librement disponible sur le site de la FRS, que j'ai trouvé particulièrement remarquable et utile pour comprendre à la fois l'état et surtout les perspectives immédiates du conflit, parce que, pour le dire franchement, c'est remarquablement clair, c'est-à-dire que, d'une part, vous ne vous perdez pas dans des conjectures infinies ou sur des débats de tête d'épingle, comme on en voit parfois. Il y a évidemment toute la difficulté incompressible, en quelque sorte, d'estimation qui est propre à ce conflit, aussi bien des équipements que des stocks ou des pertes, mais vous n'en faites pas du tout mystère. D'ailleurs, vous expliquez très clairement à la fois votre méthodologie et les incertitudes qui demeurent. Mais l'un des grands mérites de cette étude, c'est que c'est donc très synthétique et très clair. D'abord, sur ce qu'on peut savoir sur l'état des forces actuelles, sur certains grands segments importants dont on va reparler, comme les chars ou l'artillerie, et les raisons sur l'état de ces forces, notamment on parlera évidemment des problèmes russes d'équipement et de matériel. Mais au-delà de ça, ce qui est précieux, c'est que vous le faites à la fois de manière comparée et aussi et surtout de manière dynamique. C'est-à-dire non seulement en vous posant la question des capacités à un instant T, mais surtout la question de ces capacités comparées, de régénération, voire de montée en puissance. Ce qui est évidemment est très précieux alors qu'on se trouve, on peut penser en tout cas à la fin probable d'un cycle ou d'une phase d'offensive russe dont la réussite a été limitée, et à la veille possible, voire probable, d'une contre-offensive ukrainienne dont il reste évidemment à estimer l'ampleur et les chances de succès. Après, je vais préciser, on enregistre cette émission le mercredi 12 juin, donc tout cela ayant tendance à évoluer très vite, j'espère que ça n'aura pas trop bougé d'ici le jour de la diffusion, donc on est relativement confiant là-dessus, même si on vit un peu dangereusement en enregistrant quasiment une semaine à l'avance. Mais, justement, j'aurais aimé commencer par une sorte de constat à l'instant T. Alors, il y a le front, qui est ce qu'il est, mais on en reparlera peut-être. Je ne suis pas totalement certain que ce soit en fixant des cartes, comme on le fait beaucoup depuis le début de l'invasion russe, qu'on saisisse nécessairement le mieux en ce moment ce qui est en train de se passer ou ce qui s'apprête à se passer. Mais au-delà et plus largement, donc, comment caractériser, voilà, quels sont les domaines ou les zones où il se passe des choses en ce moment et dans un futur prévisible, en gros ce que vous appelez les lignes d'effort principales du moment. Je ne sais pas, peut-être Philippe Gros ?
Eh bien, actuellement, on est, je dirais, sur une sorte de plateau. On rentre dans une phase que je qualifierais de transition. On a une campagne de frappe stratégique russe qui se poursuit sous forme de salve, mais avec une fréquence de plus en plus réduite, probablement liée au nombre de munitions disponibles. On a des frappes ukrainiennes qui sont très épisodiques, mais qui ont un effet stratégique d'occupation, on va dire, de diversion, de ressources russes, etc., etc., probablement. Et puis, surtout, on a le front, et là, sur la ligne de front, je précise que la campagne de frappe russe n'a eu, en l'état, aucun effet stratégique réel, sauf celui d'user la défense ukrainienne, de l'obliger à dépenser ses munitions. Et puis, on a donc le front, et là, le front, on est on va rentrer, à mon sens, on devrait rentrer, il faut rester extrêmement prudent hein, de façon générale sur tout ce qu'on dit, parce que on reste à 3 000 km de distance. Et donc, comment on n'a pas été sur place, et donc il faut rester extrêmement prudent sur les hypothèses qu'on formule. Cela étant, il semble qu'on aboutisse à une forme de plateau, dans le sens où l'offensive russe semble culminer. Et atteindre le bout de ses ressources. L'offensive donc qui a été lancée surtout depuis le mois de janvier. Et inversement, on a du côté ukrainien la montée en puissance d'une masse de manœuvre dont on va beaucoup reparler, d'une réserve stratégique, d'une masse de manœuvre pour la contre-offensive, mais qui de toute évidence n'est pas encore mûre. Loin s'en faut. Et on a en même temps en arrière-plan une mobilisation totale du côté ukrainien qui se poursuit, et puis du côté russe une triple mobilisation, une mobilisation des troupes, mais qui a elle-même une mobilisation partielle qui a déjà été effectuée, voire dont les éléments sont déjà consommés dans les combats, le retour à un effort de mobilisation de contractuels, on va y revenir. On a une mobilisation de la BITD, de la base industrielle et technologique de défense, mais là encore, il faut nuancer, c'est-à-dire qu'on a une mobilisation, je dirais, à périmètre plus ou moins constant en termes de capacité de production. Vincent Touré en dira, l'expliquera beaucoup mieux que moi. Et on a également une mobilisation des esprits, avec, mais ça déjà depuis plusieurs mois, avec l'essentialisation du conflit, etc. Tout ce qu'on voit.
Alors, on a une sorte de tableau global, et on va entrer dans le détail, mais donc je l'ai dit, l'un des très grands mérites de cette étude, c'est qu'elle permet de saisir un peu les niveaux et notamment les dynamiques d'équipement, en particulier en ce qui concerne la Russie, pour laquelle on a eu pas mal de surprises, on va le dire, depuis le début du conflit, et surtout, ça permet de voir les raisons qui se cachent un peu derrière. Alors, on va notamment commencer... En gros, il y a deux segments que vous étudiez particulièrement, mais parce que c'est deux segments absolument essentiels dans la guerre telle qu'elle est menée depuis plus d'un an. C'est d'une part les chars et d'autre part l'artillerie, et on apprend énormément sur ces deux segments en vous lisant. Mais on va commencer notamment par les chars... Alors, première question, vraiment pour entrer dans le sujet, parce que bon, on sait, on a eu des décomptes, mais en fait, je vais pas tous les matins sur le blog Oryx qui compile ses pertes. Donc, est-ce que on peut avoir un bilan même rapide, approximatif, des pertes russes en termes de chars, en termes de blindés, par rapport, disons, aux effectifs totaux qui ont été engagés? Peut-être Philippe Gros encore?
Oui, puis ensuite je laisserai la main à Vincent pour comment dire l'explication plus structurelle. Mais en termes de décompte, en fait, on était de toute évidence, de façon générale. Déjà peut-être rappeler de façon générale que l'ensemble des équipements russes, vous avez une perte de densité énorme des armes lourdes dans l'armée russe sur l'année, qui est de façon générale, que ce soit pour les chars, l'artillerie, les véhicules blindés, etc., qui est lié à trois grands facteurs. Donc des pertes énormes, des stocks qui sont beaucoup plus limités qu'on ne le pensait, au sens de la partie utile des stocks, qui sont restaurables et qui sont bien plus limités qu'on l'imaginait. Une BITD, je l'évoquais à l'instant, qui en fait est confrontée à d'énormes problèmes, et là Vincent y reviendra, mais qui ne parvient pas, comment dire, à compenser les pertes. Et ensuite, également avant la BITD, tout ce qui est maintien en condition opérationnelle, toute la chaîne de MCO qui elle-même est déficiente. Alors, sur les pertes concernant les chars, mais c'est aussi vrai dans les autres catégories d'équipements, il y a un élément dont on parle très peu. On parle des pertes au combat, c'est-à-dire des véhicules détruits, endommagés, abandonnés, repris par les Ukrainiens, parce que ces éléments sont plus aisément dénombrables. Hein, je vous mentionnais à juste titre la base Oryx et également la base Warspotter, qui permet de dénombrer par l'imagerie les documents, les véhicules perdus. Mais il y a également un élément qui est beaucoup moins appréhendable, qui est celui de l'usure opérationnelle. Le char qui casse son train de roulement en allant en poste, en allant prendre position, dont la tourelle fonctionne plus, etc. Et ça, ces pertes, elles sont énormes. Et on le sait historiquement, c'est le cas d'ailleurs dans toutes les armées, hein. Je rappelle par exemple que pour l'armée française, lors de Serval, où on était loin d'atteindre ces niveaux d'intensité, où il y avait quand même un environnement qui était très abrasif, l'armée française renouvelait le parc d'équipement par quart tous les ans pour l'entretenir. Là, les Russes, on sait que avec l'état de leur capacité de maintien en condition opérationnelle, qui est très déficient, plus ils n'arrivent pas, ils étaient en déficit pour maintenir les engins, les véhicules, et donc cette usure opérationnelle, elle est très très importante. Alors on n'a pas de chiffres, mais on a quantité d'éléments indirects qui nous permettent de juger de cette usure. Alors pour les chars, typiquement, pour donner un chiffre, on était sur avant la guerre 3 000, environ. Alors là, je reprends les chiffres de Military Balance, 3 300 chars en unité. Et un stock qu'on estimait à, selon le nombre de la catégorie de chars pris en compte, à 10 300 si on voit les filières des modèles les plus récents, voire 14 à 17 000 en fonction, je dirais, des modèles les plus anciens du début de la guerre froide. En fait, au bout du compte, on s'est aperçu par des études d'imagerie sur les bases de réserve et les bases de réparation et de maintenance des forces russes, que, en fait, en réalité, il y en avait un grand maximum de 7 ou 8 000, physiquement dénombrables. Et que sur ces 7 à 8 000, la simple analyse par imagerie montrait que vous en aviez environ 3 000 qui n'étaient pas restaurables. Donc, ça signifie 4 à 5 000 chars potentiellement restaurables, vu du ciel, c'est-à-dire beaucoup moins. Sur ce, vous avez donc des pertes qui sont de l'ordre de 2 000 engins, des pertes au combat dont on a parlé, puis vous avez des centaines d'engins, des centaines d'autres, voire plus, peut-être 1 000, enfin on sait, c'est pas exactement, mais ce serait pas étonnant qu'on ait soit à un ou 2 000, qui sont liés à l'usure. Et donc mécaniquement maintenant, vous aviez début 2023 1 800 chars qui étaient dénombrés en unités, soit moitié moins qu'au début de l'année, en dépit de plusieurs mois d'efforts de déstockage déjà effectués, prélevés sur ces fameux stocks dont on parlait. Des stocks qui, donc, eux, étaient estimés par Military Balance à 5 000 chars, dont les fameux 3 000 restaurables. Et donc, au début de l'année, en gros, vous aviez un ordre de grandeur de pas de 1 000 à 2 000 chars potentiellement restaurables au début de l'année. Donc, déjà 3 ou 4 mois après, les pertes se sont accrues. Et quand vous regardez, on ne va pas parler des données là, puisque ce sont des données classifiées, mais quand vous regardez l'appréciation qu'on peut tirer des fuites, tirer des documents sur lesquels il faut rester prudent là encore, parce qu'il y a des chiffres qui ont été falsifiés par les Russes. Mais le torrent de fuite des documents de la DIA, hein, de l'Agence de renseignement américaine, ça confirme totalement les calculs. C'est-à-dire que vous avez un effondrement, en particulier dans le domaine des chars, vous avez un effondrement de l'ordre de bataille russe.
Alors, il va falloir essayer de comprendre tout ça. Donc, d'une part, ces stocks, ces réserves qui sont limitées, et puis aussi et surtout cet état qui explique donc cette usure, qui est, donc cette mise hors combat qui aura été très rapide depuis plus d'un an. Et c'est vraiment une des très grandes originalités de cette étude, c'est que vous permettez de comprendre pourquoi. Et notamment au cœur de tout ça, vous avez déjà commencé à y faire référence, Philippe Gros, mais il y a deux gros piliers que sont d'une part la politique de stockage et d'autre part le MCO, donc le maintien en conditions opérationnelles, qui sont fautifs et très largement plus que ça du côté russe. Alors on avait un peu parlé des stocks déjà dans une émission récente avec Léo Péria-Peigné, mais bon, de la même manière, je peux dire que ces deux sujets, donc les stocks et le MCO, c'est vraiment pas les sujets les plus sexy du monde de la défense à première vue. Et pourtant, on a pu voir, et on va voir, et on a vu qu'ils sont absolument cruciaux. Alors, commençons peut-être par les stocks. Alors, je vais juste rappeler la philosophie générale que Léo nous avait exposée, mais qui est globalement celle de stocks monstrueux dans le cadre de la machine de guerre soviétique, et une certaine intercompatibilité des pièces sur différents modèles avec l'idée derrière qui est celle de la cannibalisation, c'est-à-dire le fait qu'on doit globalement pouvoir se servir des pièces de certains chars stockés pour en réparer d'autres. Donc, ça, c'est la philosophie. Ensuite, dans la pratique, et ce que la guerre d'Ukraine a montré de cette pratique, qu'est-ce qu'on a pu en voir? Qu'est-ce que ça a révélé dans une certaine mesure de ce point de vue-là, Vincent Touret?
Bah, du coup, et ça fera très bien complément avec ce que vient de dire Philippe. Donc, on a les chiffres des pertes, on a de l'imagerie spatiale, on a des suppositions par comparaison avec ce que l'on sait de notre usure, de notre MCO chez nous. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est d'adjoindre à ça la recherche dans les sources russes. C'est ça aussi qu'on a essayé vraiment de faire. C'est toujours de voir ce qu'en disaient les Russes eux-mêmes, quelles critiques ils adressaient eux-mêmes vis-à-vis de leur outil militaire, et puis eux-mêmes, quelles étaient leurs estimations. Et par rapport justement à la philosophie que vous décrivez, donc c'est vraiment c'est accepter le chaos hein, quelque part. C'est-à-dire les Soviétiques sont face à la guerre industrielle partent du principe que l'attrition va être énorme, qu'elle ne pourra jamais être compensée par la réparation, et qu'il faut donc produire en amont suffisamment de stock avec des véhicules aux pièces interchangeables pour pouvoir directement cannibaliser sur le terrain, comme vous l'avez parfaitement expliqué. Ces enseignements soviétiques, les Russes ne les remettent pas en fait en question. Et c'est là où justement il va y avoir une contradiction qui va apparaître. C'est-à-dire que quand vous avez les retours d'expérience de la guerre de Tchétchénie ou même de Géorgie, les Russes restent sur une estimation assez apocalyptique de on va perdre en conflit armé de haute intensité jusqu'à 70% de nos matériels existants en unité. Ils descendent vraiment pas moins de ça. Et du coup, pour eux, ça confirme les enseignements soviétiques. Où ils sont là en mode, eh ben écoutez, la maintenance, elle va, on va, on, ça sert à rien et de toute façon, on n'a pas le financement, on n'aura jamais le personnel qu'on doit déjà diriger vers la reconstruction de notre armée. Donc, il faut vraiment le rester à un minimal. Et donc là, vous avez une contradiction parce que vous avez donc une politique industrielle de production de nouvelles plateformes qui, elle, s'écroule complètement. Hein. Vous avez quasiment plus de production de tanks dans les années 2000 ou même d'autres matériels blindés. Et puis de l'autre côté, vous avez, on va dire, un vrai démembrement du système de maintenance russe, parce que par les effets de la libéralisation. C'est-à-dire, vous savez, c'est la réforme New Look, hein, la réforme de 2010, hein, la mère de toutes les fautes quelque part de l'armée russe présente, où pour encore une fois sauver, couper les coûts, ils vont libéraliser, externaliser conséquemment la maintenance des unités. Et vous arrivez du coup à des estimations russes qui dit qu'il y a c'est plus d'un tiers en fait des besoins qui ne sont pas couverts, qu'il y a à peine 5% du personnel nécessaire pour continuer la MCO, et puis une dépendance à des entreprises du coup privées qui sont pas très fiables parce que vous avez des affaires de corruption et qui font qu'au final vous avez un stock qui est très difficilement maintenable. Donc, sur cette première contradiction, vous avez, si vous voulez, comment dire, elle est vraiment systématique. Donc, vous avez l'entretien effectivement sur le terrain qui est déficient, mais vous avez effectivement l'entretien des stocks. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est vraiment mettre à mal les suppositions que la plupart des gens gardent vis-à-vis de la Russie et de l'Union soviétique, que je pourrais décrire un peu méchamment comme une sorte de blocage mental. On est face à un pays dont on estime l'héritage soviétique absolument gigantesque. Et quand les pertes s'accumulent depuis un an sur l'armée russe, la première réponse, le premier réflexe, c'est de se dire, écoutez, de toute façon, c'est pas très grave, il y a ces 10 000 chars qui sont là en Sibérie à attendre et qui vont pouvoir être utiles. Et comme Philippe l'a très bien déjà expliqué, en fait, c'est largement des stocks qui sont virtuels. Et pourquoi ils sont virtuels? Donc déjà, il y a l'imagerie qui montre qu'il y en a beaucoup qui manquent à l'appel. Mais ensuite, les Russes eux-mêmes montrent que l'effort de maintenance, d'entretien de ces stocks n'a pas été effectué. Donc, par exemple, même à l'époque soviétique, ils disaient très bien que les stocks étaient déjà trop démesurés pour être entretenus et que c'était pas là. C'était, je crois, enfin les chiffres exacts sont dans l'étude, mais vous atteignez pas 60% en fait de la maintenance nécessaire. En fait, qui était effectué sur tous ces stocks. Ensuite, vous avez la période des années 2000, donc là, et puis années 90, donc là, vous avez effondrement, encore une fois, du financement. Ce qui fait qu'en fait, les fonds qui sont donnés pour, par exemple, mettre en cocon ou simplement faire les différents contrôles de techniques qui doivent être assurés pour toutes les machines. Et les machines, pour vous donner une idée, c'est 25-30 ans d'espérance de vie. Donc normalement, vous devez avoir des contrôles tous les ans, tous les 5 ans, tous les 15 ans. Tout ça demande des fonds, tout ça demande des pièces de rechange, parce qu'un char, en fait, la plateforme reste, demeure, mais vous devez au bout d'un moment changer les capteurs, vous devez changer les caoutchoucs, vous devez changer les lubrifiants. Tout ça, en fait, ne va pas être assuré. Donc sur les stocks dénombrés par imagerie, en fait les Russes expliquent dès 2011 qu'il y en a soit déjà 80% de véhicules sont maintenus complètement à ciel ouvert, qu'ensuite, même sur ceux qui sont correctement, entre guillemets, entretenus, vous en avez 75% en fait qui sont défectueux. Et donc vous arrivez en 2022 avec un stock qui a déjà été largement cannibalisé pour permettre à l'armée russe de monter en puissance sur son élément blindé, puisque en fait, depuis une décennie, ils ne produisaient pas vraiment de nouvelles plateformes. En fait, ils reconvertissaient les T-72, les T-80, qui étaient en fait encore exploitables dans les stocks dont on parle. Donc en fait, vous arrivez à quelque chose de complètement anémié à l'entrée en guerre en Ukraine. Et ça, ça a continué de s'accroître, puisqu'ils ont dû recourir du coup aux T-62, donc une génération encore précédente, et puis maintenant on voit les T-55 qui pointent leur bout de leur nez. Donc ouais, c'est absolument catastrophique.
Et parce que signalons que c'est sympa d'avoir des stocks en Sibérie, parce que c'est évidemment il y a de la place, mais évidemment le climat a tendance à être un peu rugueux, surtout quand on les conserve en plein air. Philippe Gros ?
Oui, je voulais revenir sur un point qu'a évoqué Vincent, insister là-dessus, sur un point qui est essentiel, c'est, je dirais, la marche d'escalier énorme franchie négativement par les Russes avec cette fameuse réforme de Serdioukov de 2008. Qui concerne les matériels et qui concerne également d'ailleurs les personnels. C'est-à-dire que cette réforme qui a été principalement menée de 2008 à, sous ton contrôle Vincent, 2012-2013, je dirais dans son épure originale, après il y a eu des corrections, mais elle a visé vraiment à faire passer l'armée russe, je dirais, de l'héritage soviétique avec ses structures, ses cadres, etc., etc., et avec tout déjà les caractéristiques qu'a décrit Vincent, à une armée censément beaucoup plus moderne, beaucoup plus resserrée, mieux équipée, avec moins d'hommes, en gros beaucoup de métal et moins de chair, mais en même temps au détriment de ces réserves d'équipement, de matériel qu'il n'était plus possible de maintenir en même temps que de financer la modernisation de cet appareil de force. Et donc, il y a une étape déterminante qui a été franchie sur cette période de 2008 et les années qui ont suivi.
Et le deuxième, le corollaire de tout ça, parce qu'on ne comprend pas l'équation, donc évidemment, il y avait des stocks qui étaient moins bons, mais le deuxième pan de tout ça, c'est on pourrait dire que oui, mais peut-être qu'ils ont, en quelque sorte, même si le stock est dégradé, il y a une manière d'améliorer en flux continu. Et là, ce que vous indiquez, et qu'on voit pour le coup vraiment depuis le début de la guerre, c'est qu'il y a eu une sorte d'incapacité à mettre aussi la BITD, vous en parliez Philippe Gros, donc la base industrielle et technologique de défense, en régime de guerre, en quelque sorte, c'est-à-dire pour maintenir... On en parlait récemment avec Adrien Fontanellas, mais enfin bon, les équipements, c'est bien quand ça sert, mais faut forcément que ça reparte en usine, et puis d'une manière générale, il peut y avoir une montée en puissance industrielle pour l'entretien, etc., quand il y a besoin. Et là, ce que vous montrez dans l'étude, c'est que ce pas-là, il n'a pas réussi à être franchi, c'est-à-dire ils réussissent pas à mettre leur appareil industriel en état de marche pour soit reconvertir des vieux stocks, soit même simplement entretenir les unités qui reviennent du front. Ça, clairement, ils n'ont pas réussi à le faire. Je ne sais pas, peut-être Vincent Touré ?
Il y a plusieurs en fait, contraintes structurelles qui apparaissent absolument aberrantes pour une remontée en puissance d'ampleur et rapide. Parce que, effectivement, donc il y a ces stocks qui sont défectueux, mais on pourrait partir sur l'hypothèse que les Russes ont suffisamment de capacité industrielle pour rapidement en fait les réparer et les remettre en ordre de marche. Là, le problème déjà, c'est la vétusté en fait de la BITD. C'est-à-dire que la moyenne d'âge des machines-outils, des infrastructures, c'est grosso modo c'est 17 ans. La plupart des publications scientifiques et économiques russes montrent bien en fait qu'il n'y a pas eu de modernisation majeure depuis en fait la chute de l'Union soviétique. Donc déjà vous avez un problème de vétusté. Vous avez ensuite un problème de main-d'œuvre, c'est-à-dire que la moyenne d'âge de l'industrie de défense russe dépasse les 55 ans. Donc vous avez un manque de renouvellement du personnel. Vous avez une carence aussi brute de personnel. Hein. Pour les ingénieurs, on est quand même sur des taux de 40% de manque de personnel, avec des estimations données récemment par le ministère de la Défense, je ne sais plus, comme quoi ils avaient besoin de plus de 400 000 personnels à l'horizon 2025-2030. Donc vous avez vraiment un problème Vous avez un problème sur le capital matériel et sur le capital humain. À ces deux premiers problèmes, vous avez aussi, je rajouterais aussi le manque aussi d'usines en fait, unitairement. C'est-à-dire que pour les chars, en fait, concrètement, vous n'avez que 4 usines de réparation et de production russes. Ces usines sont dans des états d'activité très variables, parce que certaines ont pu bénéficier d'investissements constants. Donc là, vous prenez Ural Vagon Zavod, il n'y a pas trop de problèmes. Par contre, vous prenez, par exemple, la 61e usine de réparation de Saint-Pétersbourg. Celle-ci, en fait, son directeur avait donné plusieurs entretiens dans la décennie précédente, expliquant qu'ils n'avaient pas bénéficié de fonds, en fait, pour maintenir à flot l'activité. Et souvent, ils s'en sortaient, d'ailleurs, par des réparations de T-34 pour des marches officielles. Donc, c'est vraiment une activité très ténue, quand même. Et donc, le besoin aussi de diversification civile. Donc, vous aviez une industrie qui avait des carences, qui était même demandée par Vladimir Poutine. On lui demandait de diversifier sa production vers des produits civils, ce qui crée encore une fois, ce qui l'a fait reculer quelque part pour revenir à une économie de guerre. Et puis ensuite, vous avez les composants eux-mêmes. Et là, la criticité, c'est vraiment catastrophique pour les Russes. Donc il y a l'électronique, hein, déjà, c'est le plus critique. Vous êtes, et là encore une fois, on s'est appuyé notamment sur des études russes, en plus de des études étrangères qui sont déjà très complètes sur le sujet. Et là, si vous voulez, vous dépassez les 60% en fait de dépendance. Donc les Russes n'ont pas les usines, ils n'ont pas les composants, et ça obère en fait vraiment une montée en puissance rapide. Ouais.
Alors maintenant, il faut. Ah, donc là, on a une sorte de tableau de disons, des chars russes, de leurs faiblesses et de la manière dont ils s'usent et dont ils réussissent pas à régénérer le capital. Une deuxième pièce, un deuxième pilier de l'étude qui est extrêmement intéressant, c'est l'artillerie, et qui est tout à fait fascinante à étudier. On peut le rappeler, même si on l'a déjà dit souvent, mais il y a une centralité absolument totale de l'artillerie dans la doctrine russe, au sens où c'est censé être le principal effecteur, la principale arme qui produit des dégâts chez l'ennemi, et le reste du dispositif qui est un petit peu articulé autour. Alors, simplement, on a dit qu'il y avait une grande supériorité des feux, notamment à court et moyenne portée russe. Bon, si on se concentre encore une fois sur les matériels, parce que c'est ça qui permet de voir non seulement le potentiel à un instant T, mais aussi un peu à l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les matériels qui ont été engagés par l'armée russe et, disons, les effets qu'ils ont produits, notamment de manière dynamique, notamment la manière dont ça a évolué depuis le début de la guerre, peut-être Philippe Gros.
Alors, l'armée russe, effectivement, vous avez entièrement raison. L'artillerie est au cœur c'est le complexe reconnaissance feu qui est au cœur de la doctrine russe. Jusqu'à il y a quelques mois justement, les Russes ont dû abandonner. Ça signifie que vous avez dans l'armée russe des unités d'artillerie qui sont présentes à tous les niveaux. Vous avez une puissance de feu d'artillerie dans les unités interarmes qui est bien supérieure à celle des occidentaux en puissance de feu. Vous avez en plus donc des unités d'artillerie au niveau des armées des corps ou des armées combinées pour la plus longue portée, etc. Et donc vous aviez un ordre de bataille, on va dire, à honorer qui a toujours été énorme et que les Russes n'ont jamais en réalité pu doter de façon complète avec les armements les plus modernes, notamment les 2S-19 MSTA, etc., les automoteurs d'artillerie les plus modernes. Ils n'ont jamais pu doter tout cet ordre de bataille.
Les automoteurs, je vais juste faire une incise pour préciser, c'est important parce que les automoteurs, c'est à l'exemple de ce qu'on a les Césars, c'est-à-dire c'est globalement un véhicule qui peut se propulser et qui peut tirer. C'est important parce que c'est soit des automoteurs, soit de l'artillerie tractée, donc en gros une pièce d'artillerie qu'on met derrière un canon. C'est important parce qu'on l'a beaucoup dit depuis le début de la guerre, mais ce qui est important dans l'artillerie, c'est de pouvoir bouger rapidement, c'est de tirer, c'est ce qu'on appelle le shoot and scoot, c'est-à-dire de pouvoir tirer et ensuite se barrer avant que la contre-batterie arrive. Et là, de ce point de vue-là, donc c'est important d'avoir des automoteurs parce que l'artillerie tractée a nettement plus d'inertie, est nettement plus lente et donc est nettement plus vulnérable aux tirs de contre-batterie.
Oui, vous faites bien de donner cette précision, et chez les Russes c'est aussi important parce que vous avez une manœuvre des feux, un repositionnement permanent des feux en fait, c'est bien une manœuvre par et pour le feu, la doctrine russe à la base. Et donc, mécaniquement, ça exige une mobilité des feux. Au-delà du point que vous évoquez, vous avez entièrement raison, en contre-batterie, du shoot and scoot, le fait d'éviter les coups de l'adversaire. Et donc, les Russes ont jamais pu doter leur énorme ordre de bataille avec l'ensemble de ces moyens. Et donc, ça signifie qu'ils ont, dès avant le conflit, déjà d'ailleurs déstocké, repris toute une quantité de pièces d'artillerie tractées. Alors là, dans ce domaine, les pertes subies par l'armée russe au combat sont probablement, sur le plan relatif, sur le plan proportionnel, moindres que celles concernant les chars. En revanche, il y a deux problèmes majeurs. Le premier, sur lequel on va passer plus rapidement, mais qui est un problème absolument critique, c'est celui de l'usure des pièces, de l'usure des tubes, de l'usure des canons. Tout simplement parce que les volumes de feu, déjà, on retrouve les mêmes problèmes de maintien en condition opérationnelle que ceux qu'on a évoqués, c'est-à-dire que c'est une artillerie qui va au feu qui est déjà, selon les éléments dont on dispose, probablement déjà partiellement usée au début de 2022. Et ensuite, c'est une artillerie qui tire plusieurs millions de coups. Et si on fait des ratios vraiment très empiriques, très imparfaits, parce que les données vont évidemment varier d'une unité à l'autre, en fonction des pièces qui sont arrivées plus tardivement, etc., etc. Mais vous arrivez mécaniquement à des ordres de grandeur de plusieurs milliers de coups tirés par pièce. Or, un tube, ça se change au bout de 2000 coups dans l'artillerie russe, des chiffres d'ailleurs qui sont pas loin de ceux de notre artillerie à nous, qui dépendent en fait beaucoup aussi des caractéristiques de la pièce, de son niveau de fiabilité, de la longueur du tube, du calibre du tube, hein, des pressions qui vont s'exercer, etc. Mais disons que empiriquement, on voit bien que l'artillerie russe a été, durant cette année, avec les feux qu'elle a délivrés, utilisée bien au-delà de, je dirais, des limites fixées par les normes. Alors ça signifie pas que les canons, si vous limitez un tube à 2000 coups, à 2001 coups, il va pas exploser, hein, c'est pas le problème. Mais disons que vous avez une courbe de dégradation de l'efficacité du tube, et même après de sa fragilité, de la fragilité de la pièce, qui va augmenter crescendo. Or cette artillerie, elle est probablement déjà bien au-delà de ses normes dans son utilisation. Et avec des stocks, là encore, qui ont déjà été sollicités pour recompléter les unités, etc. Et puis, vous avez le deuxième problème, qui est évidemment celui dont on parle beaucoup, des munitions.
Justement, parlons-en. Donc, ce problème qui est absolument central, on en parle de plus en plus. Ça fait des mois déjà qu'on comprend que c'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est le stock des munitions. Alors ça, on le sait qu'ils en ont énormément des Russes, mais ce que vous montrez très bien dans l'étude, c'est qu'il y a des problèmes de stock qui sont pas totalement étrangers à ceux qu'on a déjà exposés sur les chars, qui sont hérités notamment des années 90. Et c'est le fait que eh ben, il y a un certain nombre de pièces, enfin un certain nombre d'obus, bon, ou sur lesquels il y a des réelles questions en termes de qualité. Et on se demande un petit peu si, disons, ils n'ont pas déjà mangé leur pain blanc et on n'arrive pas un petit peu dans le dur en termes de qualité de ces munitions. Peut-être Philippe Gros?
Oui, juste un point. Je vais donner la main à Vincent là, qui expliquera ça très bien. Mais ce qu'on constate en fait, on constate depuis plusieurs mois un rationnement du tir russe. Ça, c'est dans toutes les sources, tous les récits, etc. À partir de là, vous avez deux explications possibles. Soit les munitions, du fait des lignes de communication, ne parviennent pas aux unités. Soit vous n'avez plus assez de munitions. Or, il semble, pour plusieurs raisons, que l'hypothèse, la première hypothèse, celle d'une perturbation permanente des lignes de communication, on peut pas l'étayer. C'est-à-dire que les Ukrainiens, ils sentent dans la grande profondeur, avec notamment les lance-roquettes HIMARS, qui ont eu beaucoup d'effets à l'été pour détruire toute les dépôts identifiés par les Russes, semble que cette puissance de feu, elle soit en fait plus réduite qu'on pourrait le penser. Et donc, en fin de compte, la perturbation des lignes de communication terrestres russes, il y a d'autres éléments, hein, en termes de ravitaillement, de soutien, etc., etc., qui laissent penser à ça, sont, en fin de compte, beaucoup moins perturbées qu'on pourrait l'imaginer. Donc, ça signifie que c'est la deuxième option, c'est que tout simplement les Russes n'ont plus assez de munitions. Là, je pense Vincent va rebondir pour, je dirais, expliquer le comment du pourquoi en fait de ces manques de munitions.
Vincent Touret, donc sur ces stocks de munitions qui semblent à la fois désormais insuffisants et en même temps, vous l'indiquez très bien dans l'étude, assez problématiques.
Bah encore une fois, il n'y a pas de miracle industriel, hein. C'est un peu la même histoire que sur les tanks, c'est un peu la même histoire que sur l'artillerie. D'un point de vue industriel, vous avez un effondrement dans les années 90 qui est à peine compensé par la guerre de Tchétchénie qui force à relancer une production de munitions, qui retombe dans les limbes jusqu'en 2010-2014. Et c'est à partir de cette date que les Russes recommencent en fait à produire des munitions. Et donc c'est vraiment une industrie qui subsiste en dents de scie et qui, en fait, si vous voulez, là où est le problème, c'est que un obus ça a là aussi une durée de vie. Donc on peut pas partir du principe que, si vous voulez, il y avait des stocks, encore une fois, qui auraient pu se maintenir éternellement en Russie depuis l'ère soviétique. En fait, déjà beaucoup auraient été consommés pendant la guerre de Tchétchénie. Et puis ensuite, on a découvert les chiffres, en fait, les données hein, sur l'espérance de vie des munitions. Et celles-ci, en fait, elles peuvent pas dépasser 30 ans, même si elles étaient bien conservées. C'est-à-dire en boîte, c'est des boîtes en bois. Et donc en entrepôt. Mais en fait, la plupart des munitions, notamment que les Soviétiques ont récupérées de l'effondrement du bloc de l'Est, en fait, ont été maintenues à l'extérieur. Et là, vous descendez à 7 ans seulement d'espérance de vie. Donc vous avez tout un stock soviétique de munitions qui a virtuellement déjà disparu. Donc la Tchétchénie montre déjà des grosses tensions. Ils relancent la production conjoncturellement à ce moment-là. Ils font un moratoire parce qu'ils n'ont pas les financements pour continuer dans les années 2000. Et puis à partir de 2014, ils se rendent compte qu'avec le retour de la haute intensité et notamment déjà le début de la guerre en Ukraine, il va falloir monter en puissance. Et là, si vous voulez, l'effort est quand même très très ténu. C'est-à-dire que vous avez, on a trouvé les données macroéconomiques sur ce secteur. En Russie, vous avez encore une fois des entreprises qui ne montent pas en puissance, dont le nombre lui-même stagne. Et puis vous avez même, en fait, on a découvert qu'en fait la productivité même de ces entreprises en fait stagnait. Donc ça a forcé l'État russe à lancer un programme cette fois de restauration des munitions encore existantes. Et là, honnêtement, la personne qui a fait le meilleur travail là-dessus, et nos sources sont concordantes, c'est Pavel Luzin. Qui a montré en fait que vous étiez à peu près 500 000 coups réparés, enfin restaurés par an, et avec un total du coup avant l'entrée en guerre quand même de 10 millions d'obus. Mais comme Philippe l'explique parfaitement, encore une fois, le rôle que les Russes donnent au feu dans leur plan d'opération est complètement en fait, il est beaucoup trop important. Donc vous avez en fait une surconsommation constante de ces munitions. Et je rajouterais deux éléments supplémentaires sur l'artillerie. On a parlé du coût des pièces, de l'usure des pièces, mais il y a aussi tout l'écosystème qui permet les feux et qui entraîne d'ailleurs une surconsommation. C'est-à-dire déjà les officiers, hein, le rôle central de l'officier russe. Ces cadres-là, on sait, ils ont subi une grosse attrition, il y a eu beaucoup de pertes chez les officiers. Donc là, vous avez une baisse de la compétence des équipages d'artillerie qui entraîne en général une surconsommation des pièces. Vous avez ensuite tout ce qui est l'intégration système russe par CDO automatisé. Et ça, ces systèmes, là aussi, ils ont connu une grande, de grandes pertes et une grande désorganisation. Donc quand vous alignez données industrielles, perte de compétences, perte de système, vous arrivez en fait à la baisse d'efficacité aujourd'hui constatée.
Et là, ce qu'on voit, c'est très intéressant parce que c'est effectivement les derniers retours qu'on a notamment sur le front de Bakhmout. Il semblerait que, pour le dire clairement, il commence à taper dans les stocks non restaurés, et que les stocks non restaurés, évidemment, ça pose des questions de précision, ça pose ici des questions d'efficacité, et il y a un certain nombre de témoignages qui remontent en disant qu'il y a quand même beaucoup d'obus qui ont tendance à pas exploser ces derniers temps, ce qui indique bien que même s'ils mettent en œuvre toute la capacité industrielle qu'ils peuvent pour restaurer des obus aussi vite que possible, ils sont quand même dans le dur, et puisque, quoi qu'il arrive, leur consommation est supérieure à leur capacité de restauration et de production, a priori, on va rester dans le dur pendant un certain temps. Mais donc, tout ça entraîne, en tout cas, du moins semble assez concomitant à une évolution des tactiques, des Russes, que vous détaillez très bien dans l'étude, qui semble reposer de plus en plus sur l'infanterie, sur des groupes d'assaut. Alors, ils ont aussi recomposé leur structure d'unité, et notamment d'unité d'assaut. Et c'est ce que vous avez appelé, d'une expression que je trouve très jolie, mais vous avez appelé ça le retour à 1918. Alors, peut-être expliquez-nous ce que ça recouvre, ce concept, ce que vous désignez par là, parce que ça dessine en quelque sorte les évolutions des capacités offensives des Russes ces derniers temps. Vincent Touret ?
Alors, ce qu'on a entendu par là, c'est, en fait, c'est quelque part une régression et un anachronisme. Et c'est bien deux choses différentes. La régression, c'est, bon, concrètement, les Russes, en fait, reviennent à des stratégies, enfin, des tactiques d'infanterie d'assaut. Donc, des unités beaucoup plus réduites, beaucoup plus légères, et qui font, en fait, de la micro-tactique. Hein. C'est concrètement, ils ont formé une unité qui est apte à résoudre une tâche, qui est de prendre la tranchée de devant ukrainienne. Et donc c'est une vraie régression qui est notable en fait même avant la bataille de Bakhmout, où on voyait que les Russes peinaient à réformer, à trouver une formation compétente pour leurs forces terrestres. Donc c'était le BTG, hein, vous savez, le fameux bataillon ou groupe tactique. Et la littérature montrait qu'ils essayaient de le rendre de plus en plus spécialisé, de plus en plus réduit, parce qu'en fait, ils n'ont pas les capacités, encore une fois, de coordonner correctement leur combat interarmes. Et donc, il y a une vraie régression, un effet entonnoir vers des micro-tâches tactiques qui sont gérables. Et c'est à ça qu'on arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que l'armée russe utilise encore une fois Wagner comme laboratoire de ses innovations. Et Wagner a retrouvé une solution du conflit de 1918, donc la solution allemande, qui sont les forces d'assaut pour s'infiltrer et faire sauter des zones fortifiées avec de multiples tranchées dans la profondeur. Et donc c'est pour ça que c'est un anachronisme, et ça montre encore une fois, si vous voulez, que les Russes réussissent à dégager une efficacité tactique à nouveau, mais qui est très limitée. Mais en se faisant, ils ont sacrifié tout l'édifice opératif, stratégique, de leur pensée militaire. C'est en sacrifiant toute articulation avec des buts de campagne beaucoup plus élevés que les Russes réussissent en fait à reconstruire par le bas une certaine compétence de leurs unités.
Et donc ça, c'est très intéressant. Donc c'est ce qu'on écrit, c'est ce qu'on voit, c'est les témoignages qu'on a depuis quelques semaines, c'est notamment les témoignages ukrainiens qui parlent de vagues, d'assauts, etc. Il y a toute une connotation morale qui est là-dedans aussi, mais c'est l'idée qu'ils partent à l'assaut assez follement et que c'est des pertes effroyables par rapport à ce dont on avait l'habitude au sujet des Russes. Donc évidemment, la question que ça pose derrière, c'est, bon, il y a l'évolution tactique, il y a l'évolution même doctrinale, que ça dessine peut-être ou pas sur le long terme, cette manière de calquer un peu les Sturmtruppen, donc allemandes de 1918. Et puis derrière, ça pose aussi évidemment la question du potentiel, c'est-à-dire, bon, puisqu'il y a de toute évidence, les obus sont consommés, là on en est à consommer des hommes, manifestement, pour essayer d'avoir des effets sur le terrain, bon, ça pose la question de à quel point c'est viable, et même en sautant un petit peu les connotations morales qu'on projette dessus, parce que, voilà, eux-mêmes le font apparemment, ça pose la question de combien de temps c'est viable et quelles sont les ressources qui sont derrière. On dit toujours que la Russie est un très grand pays avec beaucoup de gens et que donc ils ont un potentiel de mobilisation énorme. C'est vrai, enfin bon, ça a des limites aussi à un certain moment. Philippe Gros ?
Oui, effectivement, vous avez entièrement raison. Ce qui s'est passé, en fait, sur le plan du personnel l'an dernier, c'est que les Russes, à partir, on va dire, du printemps, ont mené ce qu'on a appelé une mobilisation masquée. En gros, c'est-à-dire un effort massif qui était déjà engagé avant la guerre, en fait. Un effort massif de recrutement de réservistes et de volontaires. Il semble, d'après les quelques éléments dont on dispose, qu'ils n'ont pas pu en fait en recruter plus de quelques dizaines de milliers. Et que donc, du fait des pertes subies à l'offensive au printemps et du fait de la contre-offensive ukrainienne, des contre-offensives ukrainiennes, les Russes ont eu une avaient vraiment à l'étiage avec un appareil de force usé jusqu'à la corde, et c'est ça qui en fait a amené donc la mobilisation à laquelle beaucoup de spécialistes, compte tenu des problèmes énormes auxquels elle faisait face, beaucoup de spécialistes jugeaient peu crédibles. Mais donc Poutine franchit le pas et lance cette mobilisation partielle. Cette mobilisation partielle, déjà on se rend compte d'une chose, on a beaucoup parlé de 300 000 hommes, mais en réalité les civils réellement mobilisés dans le cadre de cette mobilisation excèdent pas 150 000. Le reste, ça a été déconscrit après des quillards donc qui ont quitté leur service militaire, qui ont été à qui on a dit tu signes d'emblée un contrat, et ensuite ça a été des contractuels auxquels on a refusé la fin de contrat. Et on a prolongé leur contrat sine die du fait des lois signées par le par des lois décidées par Poutine. Et donc vous avez donc ces 300 000 hommes, en réalité 150 000 nouveaux, donc qu'il faut équiper. On a vu le côté chaotique de cette affaire, qu'il faut entraîner. Et on voit là encore des déports en Biélorussie ou autres, etc., qui témoignent du fait que l'appareil, et là on revient à la réforme Serdioukov de 2008, l'appareil russe n'est plus en mesure d'absorber une mobilisation massive de la population. Il n'a plus les unités de cadre, il n'a plus les infrastructures pour faire tout ça. Et donc c'est en ça que vous avez une asymétrie avec, indépendamment des effets d'échelle en termes de volume, mais vous avez une asymétrie avec l'Ukraine, qui, elle, a été capable de faire cette mobilisation massive à son niveau. Et donc, vous avez une force qui a une injection massive néanmoins de 300 000 hommes ou de 150 000 nouveaux, qui se traduit par une création de nouvelles unités, etc. Et donc, les Russes dépensent ce capital humain à défaut de pouvoir dépenser du capital de blindés et de munitions en quantité suffisante. Le problème, c'est qu'on arrive au bout du bout. Alors, Wagner a effectivement, comme l'a très bien dit Vincent, trouvé quelques clés au niveau tactique dans la guerre de position, parce que c'est, en gros, ils sont réduits qu'à faire ça, de la guerre de position. Et cela étant, le capital s'use complètement. Et vous avez une usure des unités actuelles, là encore, qui est confirmée par les données qui ont fuité, qui confirme assez ce qu'on veut dire. C'est-à-dire que déjà, si vous avez une perte d'un millier d'hommes, par exemple, généralement, quand on dit, voilà, les Russes vont perdre 1 000 hommes dans la journée, l'ordre de grandeur, vraiment très empirique, hein, il y a des hauts, des bas, ça dépend, mais enfin, l'ordre de grandeur, les Russes ont 1 millier de tués, blessés, etc., portés disparus, autres, je veux dire, dans la journée, à peu près, dans les phases offensives les plus actives, comme celles depuis le mois de janvier. Bon, 1 millier d'hommes, ça va surtout concerner les unités de mêlée, les unités d'infanterie, de reconnaissance, etc., etc., ces fameux bataillons d'infanterie d'assaut. Mais quand vous regardez une brigade russe, même avec un volume d'appui et de soutien surtout qui va être inférieur en termes de personnel à celui que vous retrouvez dans une unité occidentale, il n'en reste pas moins que vous avez bien d'autres troupes qui vont moins être exposées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne le sont pas, elles le sont moins. Et donc qui vont avoir un taux de perte moindre. Mais ça signifie que si vous neutralisez, mettons, une brigade de 3 000 hommes, avec des unités de mêlée d'infanterie et autres qui font grosso modo à peu près la moitié et qui elles-mêmes subissent des pertes délirantes de 70%, mais il n'en reste pas moins qu'avec 1 millier d'hommes perdus, vous neutralisez une brigade de 3 000 hommes, parce que les autres unités, après elles, dès lors que vous ne pouvez plus, dans cette logique de guerre de position, vous ne pouvez plus exercer d'effet offensif, les autres hommes vont servir beaucoup moins. Donc ça signifie que une perte, je dirais, en termes d'impact sur l'appareil de défense russe, dans la puissance de combat russe, donc la capacité des Russes à exercer des effets, il faut quasiment multiplier par 2 ou 3, voire 3, le nombre de volumes de force russes ou les unités correspondant à ce volume de force mises hors de combat par ces pertes, en réalité, sur le plan fonctionnel. Et donc vous aboutissez là, mécaniquement, à une usure dans les prochaines semaines, de fait la dépense de ce potentiel de mobiliser mécaniquement. Et c'est ce qu'on semble voir sur le théâtre.
Ouais, mais alors du coup, c'est toujours la question éternelle. On se demande quand ça va finir par céder, puisque ça fait maintenant des semaines et des mois, maintenant une année qu'on détaille toutes les insuffisances de l'armée russe, et pourtant ils se maintiennent encore. C'est donc l'énigme essentielle, et il faut voir jusqu'à quand ça va pouvoir tenir. Це ЗСУ, затопчемо орків в нашу траву. Це ЗСУ, тут пацани заїбашуть без сумніву. Це ЗСУ, за Україну зітремо з лиця землі. Це ЗСУ, тут брат за брата будуть горою стояти. Це ЗСУ, затопчемо орків в нашу траву. Це ЗСУ.
Карл, тут кіборги справжні. Вся Україна за ними буде стояти. Тероборона і партизани, навіть цигани крадуть танки, ракети просто руками. Тут про забрати, наш дух не зламати. За сину жовтистях будем стояти. Безстрашні воїни, ми на своїй землі будуть горіть. Чорти під джавелінами, під байрактарами. Попіл зігріємо, якщо буде холодно нам. Під вечір вип'єте коктейлі, ну меню тільки коктейлі. Молотове, це ЗСУ, тут пасики весело з гумором розганяють орду. Це ЗСУ, затопчемо орків в нашу траву. Це ЗСУ, тут пацани заїбашуть без сумніву. Це ЗСУ, за Україну зітремо з лиця смі. Це ЗСУ, тут брат за брата будуть горою стояти. Це ЗСУ, затопчемо орків в нашу траву. Це ЗСУ, тут пацани заїбашуть без сумніву. Це ЗСУ, підемо в бій за свободу і правду. Це ЗСУ, нема пощади тому, хто напав на країну мою.
Alors maintenant, il faut évidemment, on a beaucoup parlé des Russes, il faut peut-être parler un peu maintenant des Ukrainiens. On va moins entrer dans le détail des stocks, etc., des logiques industrielles. Bon, d'abord parce qu'ils en ont épuisé une bonne partie, et puis surtout, tout ça, c'est évidemment des questions qui se comprennent à l'échelle des soutiens de l'Ukraine, donc notamment tous les pays occidentaux, tout ça, on a largement parlé avec Léo Perrier-Pagné. Mais j'aurais peut-être aimé commencer par parler de ce qu'ils ont montré factuellement depuis le début de la guerre, et là, c'est très intéressant, vous identifiez un certain nombre de points forts, en tout cas de points de supériorité relative, et vous citez notamment, alors on a commencé à y faire référence, mais pour en pointer les insuffisances du côté russe, et vous citez notamment le C2, donc le C2, c'est vraiment ce qui innerve le combat, c'est ce qu'on appelle le command and control en termes un peu otaniens, c'est-à-dire la capacité, disons, à diriger et articuler les unités. Donc qu'est-ce qu'on a vu de ce point de vue-là? Évidemment, ils ont été assez largement formés et soutenus par des pays occidentaux depuis au moins quelques années, depuis au moins 2014, mais disons, comment est-ce qu'ils ont intégré ça et comment est-ce que ça fonctionne sur le terrain? Je sais pas, peut-être Vincent Touret?
Alors, par rapport au C2, justement, c'est intéressant parce qu'on assiste en fait à une grande recomposition, une tentative de syncrétisme et du moins pour l'instant aussi à un conflit, on va dire, vraiment interculturel. C'est-à-dire que vous allez avoir, on identifie, on va dire, trois grandes cultures aujourd'hui dans l'armée ukrainienne. Vous avez d'abord celle, on va dire, originelle, hein, que l'Union soviétique lui a léguée. Donc là, ça retombe sur ce que j'avais expliqué hein, dans la précédente émission, c'est-à-dire que c'est un C2 qui est très vertical, qui va plutôt mettre en avant une intégration au plan plutôt que l'initiative sur le terrain des bas échelons. Donc à celle-ci, vous avez depuis 2014 et surtout 2016, où là, il y a eu des vraies refontes doctrinales, une importation de la philosophie occidentale, hein, du mission command, hein, du commandement à l'avant. Et puis, enfin, une dernière culture qui est plus incrémentale, qui est plus empirique, qui est celle, en fait, développée depuis 2014 sur le terrain. Parce que grande spécificité ukrainienne, ce n'est pas que l'État ukrainien réussit à mobiliser, à encadrer la volonté de défense de la nation. Mais celle-ci, en fait, en 2014, a quand même dû vraiment pallier et compenser les déficiences de son État. Et donc, c'est pour ça que, au-delà des cultures institutionnelles, les deux premières que je vous ai décrites, donc soviétiques et occidentales, vous avez une troisième qui est développée et entretenue par tout un réseau de volontaires civils, par tout un réseau d'organisations, et qui est fait, en fait, d'innovations sur le terrain. Donc, par exemple, on en a beaucoup parlé, mais c'est les drones, hein, c'est les mini-drones, les drones artisanaux, les drones reconvertis, etc. C'est aussi les applications de coordination de l'artillerie. Il y a un côté très high-tech, et il y a un côté aussi très, on va dire, collégial, hein. C'est quand même une prise de décision, on va dire, plus abrupte. C'est Michael Kaufman qui en parlait d'un de ses retours en Ukraine, c'est-à-dire que on projette un peu trop le modèle NCO, par exemple, donc des sous-officiers, sur le modèle de l'armée ukrainienne. En fait, l'armée ukrainienne a réussi à compenser, là aussi, un manque de NCO par son héritage soviétique, par, en fait, justement, on va dire, une prise d'initiative très poussée de ces jeunes appelés et de ces soldats. C'est-à-dire que plusieurs fois, ils ont été confrontés, par exemple, à des simples soldats, en fait, qui prenaient une part active dans le processus de décision. Donc vous avez ces trois cultures, et ces trois cultures, en fait, s'entrechoquent. C'est-à-dire que vous avez eu un ascendant de la culture occidentale sur celle soviétique sur ces 10 dernières années, enfin un peu moins de ces 10 dernières années, mais depuis 2014. Celle-ci est à nouveau aujourd'hui confrontée à une recrudescence, on va dire, de la culture soviétique, parce que vous avez eu la perte des officiers, du personnel formé à l'Ouest, parce que vous avez un retour d'une vieille génération d'officiers et de soldats qui ont été appelés sous les drapeaux ukrainiens. Donc ça fait revenir mécaniquement en fait les leçons, l'apprentissage de ces soldats qui ont fait leur classe en fait en Union soviétique. Et puis enfin, vous avez le dernier terreau, donc celui des volontaires, qui lui subsiste, qui se recompose, qui parfois est en opposition avec les ordres donnés, et donc ceci fait un joyeux capharnaüm. En tout cas, pour le dire scientifiquement, il y a une grande hétérogénéité du C2 ukrainien. Et ça va impacter, si vous voulez, les programmes d'armement jusqu'à la prise de décision.
Un deuxième facteur, enfin un deuxième domaine très intéressant, mais alors là c'est intéressant parce que ça pose aussi encore une fois la complémentarité entre l'écosystème ukrainien et puis ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les soutiens notamment occidentaux, c'est le domaine du renseignement. Et alors évidemment les Ukrainiens sont très intimement et très organiquement dépendants de ce que leur fournissent notamment les États-Unis en termes de renseignement, mais qu'est-ce qu'on peut en dire, qu'est-ce qu'on a pu en voir de ce point de vue-là, peut-être Philippe Gros?
Disons, ce qu'on voit, c'est que plus vous vous éloignez de la ligne de front, plus vous allez dans les profondeurs respectives, plus la symétrie est énorme. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de l'appui des Occidentaux, en particulier de l'appui américain, qui permet faut toujours se méfier des notions emphatiques sur la transparence du champ de bataille. En réalité, il n'y a jamais de transparence complète, hein. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes. Le brouillard de la guerre joue toujours à des degrés divers. Cela étant, la masse de renseignements, notamment d'origine spatiale, fournie par les Américains, sur des préavis très courts, hein, notamment les appuis réalisés en quelques heures, et ce depuis le début du conflit, la capacité à produire du renseignement, des analyses toutes sources du renseignement fusionné en quelques heures, elle existe depuis le début du conflit. Elle est très importante et elle donne effectivement aux Ukrainiens un avantage énorme, la capacité à, sur une réactivité très courte, à faire de l'extraction de coordonnées extrêmement précises, comme on dit de catégorie 1, pour les tirs de lance-roquettes HIMARS aussi, ce sont des cycles qui sont bien maîtrisés, qui fonctionnent bien. Donc toute cette masse de capteurs à laquelle vient s'adjoindre les sources humaines, les sources de renseignements d'origine humaine ukrainienne, hein, dans les zones occupées, qui fournissent des renseignements qui sont centralisés, qui sont bien organisés, dont la fusion est bien organisée du côté ukrainien. Donc tout ça est un cycle qui fonctionne très bien, de toute évidence. Inversement, du côté russe, en fait, on a un déficit de renseignements depuis toujours, hein. On sait que c'était le principal problème, on a eu l'occasion de l'analyser avant la guerre avec Vincent à plusieurs reprises. On sait que le renseignement, les capacités ISR russes dans la profondeur sont déficientes et que c'est un des principaux problèmes qui font que les Russes ne peuvent pas tirer sur, ne peuvent pas cibler, ont des difficultés à cibler, voire, c'est pas possible, des cibles notamment relocalisables, des postes de commandement et autres, etc., etc. Ils sont réduits beaucoup à tirer sur des sites fixes. Mais vous avez également, je dirais, des étiages conjoncturels en termes de capacités russes, notamment les capacités spatiales. Actuellement, aussi invraisemblable que ça paraisse, les Russes n'ont pas, mis à part quelques satellites commerciaux de performance très insuffisante, les Russes n'ont pas de segment de renseignement optique spatial. Ils ont un peu de renseignements d'origine électromagnétique, des LINT, comme on dit. Ils ont probablement un satellite radar, un ou deux. Mais par exemple, en satellite optique, ils n'ont quasiment pas. Alors, c'est parce qu'il y a, là encore, du fait des sanctions, du fait des problèmes de montée en gamme technologique, etc., ils sont dans l'ornière et il est possible que les Russes finissent enfin par mettre en œuvre les systèmes très ambitieux qu'ils ont planifié, y compris des années de retard, mais toujours est-il que pour l'instant, ils n'ont pas. Et donc, vous avez un différentiel très important dans les capteurs. Et puis ensuite, dans la fusion du renseignement, je dirais que là, c'est plus mitigé, parce que les cycles existent de fusion et d'exploitation du renseignement par le cycle décisionnel Chez les Ukrainiens, vous avez des cycles très performants, mais on revient quand même là dans ce domaine sur ce qu'expliquait Vincent, c'est-à-dire sur le fait que l'armée ukrainienne reste une armée patchwork et reste une armée de composés de différentes unités différemment commandées, etc., etc. Et où donc vous avez là comment une exploitation du renseignement qui peut être imparfaite en termes de partage de renseignements, de diffusion du renseignement, etc. C'est ce qu'on a vu typiquement à Bakhmout. Et c'est ce sur quoi d'ailleurs Wagner a joué. Et vous avez des césures comme ça en la matière. Bon, soyons clairs, hein, l'histoire de la diffusion du renseignement autant en temps opportun à celui qui en a besoin. Dans toutes les armées, c'est toujours un problème. C'est comme les appuis d'artillerie, hein. On n'a jamais l'appui qu'on veut. L'artillerie tourne toujours trop court, trop long, trop court ou trop proche, et ben, le renseignement n'arrive jamais, hein. Donc ça, vous trouvez ça mécaniquement dans toutes les armées, ça fait partie des lois de Murphy. Mais il n'en reste pas moins que chez les Ukrainiens, on retrouve quand même ces failles-là qui émergent de ce que décrivait Vincent, de ces différentes cultures et influences. Et donc sur le néanmoins, vous avez quand même un appareillage renseignement, une fonction renseignement qui est globalement nettement supérieur du côté ukrainien.
Oui, parce qu'on peut signaler que pour ces choses-là, c'est évidemment les armées patchwork, c'est très problématique parce que c'est, voilà, il y a des différences probablement de doctrine, enfin en tout cas d'enseignement et d'incorporation de la doctrine. Et pour citer un ouvrage dont on reparlera bientôt, c'est la doctrine, c'est la colle tactique, c'est-à-dire c'est ce qui fait que les unités parviennent à bien communiquer ensemble et à bien interagir ensemble. Mais alors, enfin, peut-être un autre domaine dont il faut parler, c'est un domaine où il y a une supériorité plutôt inversée, mais alors ça dont on sait qu'elle est très traditionnelle, ce qu'on peut appeler la guerre électronique. Donc, notamment en particulier le brouillage, dont on sait ou on ne sait pas, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Adrien Fontanelle, que c'était une spécialité russe, alors c'est vrai à tous les niveaux, notamment au brouillage radar, notamment pour les batteries antiaériennes, enfin bref, c'est un secteur, c'est une filière, appelons ça d'excellence, en tout cas de supériorité russe depuis longtemps. Ça, qu'est-ce qu'on en a vu? À quel point est-ce que cet héritage de ces capacités s'est traduit ou pas sur le terrain? Philippe Gros?
Alors, sur l'affaire de la guerre électronique, faut rester. C'est un des domaines où il faut rester encore plus prudent que le reste, parce que les électrons ne se photographient pas, contrairement aux tanks et à l'artillerie ou les corps de troupes, et donc on a beaucoup moins d'éléments de gérer de certitude, à si tant est qu'on en ait ailleurs. Et puis en plus, c'est un domaine extrêmement fluide. Alors c'est peut-être pas aussi fluide que le domaine du cyber, mais tout de même. C'est-à-dire que on se rend compte que sur un an de conflit, dans le cycle action-réaction, brouillage, patch, autre tentative, etc., la bataille est extrêmement dynamique. Donc ce qu'on peut voir, effectivement, je reprends tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que chez les Russes, l'action dans le spectre électromagnétique, en particulier la guerre électronique, donc, fait partie intégrante des effets de ces feux dans la profondeur et sur le et dans la moindre profondeur, comment dire, sur la ligne de contact. Et vous retrouvez ça en permanence, en fin de compte. On a eu tendance au départ à dire justement du fait du manque de preuves, tiens, la guerre électronique russe est moins présente. En fait, elle est bien présente à tous les niveaux. Cela étant avec des résultats là encore, qui sont très incertains, mais qui peuvent être mitigés. Parmi les gros résultats obtenus par la guerre électronique russe, vous avez l'attrition des drones, massive. Massive. Un drone, selon l'unité à laquelle il appartient, si c'est une unité d'artillerie qui sait mieux s'en servir, ou si c'est une unité d'infanterie qui a fait du crowdfunding pour le mettre en œuvre, un drone peut durer un drone quelques jours, maximum. Et d'ailleurs, vous avez une véritable attrition de ces drones commerciaux d'origine chinoise, très peu coûteux, vous avez, qui ont une moisson énorme du fait principalement de la guerre électronique russe. J'ajoute que l'inverse est vrai, c'est-à-dire que les Ukrainiens, avec leur système de guerre électronique, prélèvent également un coût très important. Il y a un coût très important pour les drones mis en œuvre par les Russes, et que c'est un des éléments mentionnés Vincent tout à l'heure qui entrave considérablement la capacité des Russes à mettre en œuvre leur système reconnaissance frappe. L'attrition, elle est partagée. Sur les moyens de communication ukrainiens, c'est beaucoup moins évident. Par exemple, les radios à haute fréquence livrées par les Américains, les Syngars, semblent, d'après les éléments qu'on a, semblent avoir été immunes des brouillages russes. Mais en fait, on va peut-être apprendre dans 2 mois que finalement, c'est pas tout à fait vrai. Vous voyez, il faut rester très prudent. Par exemple, le fameux Starlink, les fameux terminaux Starlink semblent, depuis le début de l'année, en proie vulnérable à des actions de brouillage russe. Que ce soit des brouillages sur le GPS qui permet au terminal de se positionner pour dire au satellite je suis là et établir la communication, voire éventuellement d'autres brouillages. Bon, on sait que Starlink réagit très vite pour trouver des patchs comme il y a eu au début de la guerre, etc. Vous voyez, vous êtes dans quelque chose d'extrêmement fluide, mais effectivement, la compétition dans le champ électromagnétique est que comment dire est, comment dire beaucoup plus, je dirais, est beaucoup plus équilibrée. Rien néanmoins du côté russe. Un élément, c'est qu'on est très loin. Vous savez, on parle toujours dans ça fait partie des choses dans la transformation future des armées, l'exploitation intégrée du spectre électromagnétique avec les radios software defined où personne ne se marche sur les pieds. Je brouille une fréquence et en même temps je me sers d'une autre et tout ça de façon fluide et tout va bien aller. Vous inquiétez pas, etc. On en est très loin. C'est-à-dire que concrètement, ce qui se passe, d'après les éléments qu'on a, c'est que quand les Russes, pour éviter les frappes des Ukrainiens sur leur brouilleur, parce que quand vous brouillez, hein, c'est une quand vous brouillez, ça se voit, hein, vous êtes vous-même vulnérable aux actions de surveillance électronique de l'adversaire, donc vulnérable à une frappe. Et donc quand les Russes font ça, bah, pour éviter de se faire foudroyer par les Ukrainiens en retour, dans une forme de contre-batterie, bah, tout simplement ils éloignent leur brouilleur. Moyennant quoi, ils brouillent tout le monde devant, les Ukrainiens et les troupes russes qui sont devant, qui s'en plaignent amèrement. En tout cas, les troupes du Lugansk et de Donetsk disaient, comment dire, en fait, eux-mêmes, leurs systèmes sont brouillés. Donc, vous voyez qu'on n'est pas, on est sur quelque chose qui reste de la guerre électronique brute de fonderie, mais qui néanmoins s'adapte et évolue des deux côtés.
Enfin, on peut mentionner qu'il y a aussi d'autres facteurs d'inquiétude qui sont peut-être plus structurels au sujet des Ukrainiens, au-delà de simple question du spectre, enfin de la guerre électronique. Alors, on a beaucoup parlé, Vincent, on a un peu parlé, donc on va peut-être passer rapidement, mais la baisse de qualité des personnels. Alors, on en parle beaucoup pour les Russes, évidemment, parce qu'il y a des troupes, beaucoup d'unités d'élite qui ont été décimées dès les premiers temps. Il y a l'incorporation massive des conscrits mal formés, mais on peut constater, vous le détaillez très bien dans l'étude, le même genre de phénomène chez les Ukrainiens, parce qu'il y avait des unités de très haute qualité formées sur le long terme, notamment par les Occidentaux, qui ont été décimées aussi. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une baisse de qualité, elles peuvent être recomplétées, remplacées dans une certaine mesure, mais il y a un savoir-faire qui était acquis sur le long terme qui est évidemment pas remplaçable immédiatement. Mais j'aurais peut-être aimé me concentrer sur un autre élément que vous détaillez aussi très bien, c'est la question de l'intégration des équipements occidentaux, parce que ça permet d'arriver vers l'offensive probable à venir. On sait que bah, les Ukrainiens, ils vivent de ça, hein, ils vivent des équipements qu'on leur fournit, alors les équipements ex-soviétiques évidemment, mais aussi les équipements occidentaux. On a parlé des AMX, des Léopards, de tout ce qu'on. Enfin bon, il y a tout. Ça va arriver progressivement. Il y en a plein qui sont déjà en place depuis longtemps, les Césars, etc. Bon, on le dit souvent, mais c'est un peu un capharnaüm, l'inventaire ukrainien depuis un certain temps. Et là, ce que vous indiquez, c'est que il y a, bon, d'une part, en fait, c'est des équipements qui s'usent, hein, et c'est des équipements qui ont beaucoup servi et qui donc sont assez bien usés. Et puis ensuite, on parlera parce qu'il y a aussi des problèmes de MCO. Mais peut-être, qu'est-ce qu'on peut dire, disons, du stade auquel en sont les équipements occidentaux, leur intégration et aussi leur durabilité depuis quelques temps, quelques semaines et quelques mois maintenant? Vincent Touret?
Bon, le cadre général, si vous voulez, c'est que l'armée ukrainienne est partie en guerre, et contrairement à ce que peut dire la propagande russe, hein, c'est pas une armée otanienne qui est rentrée en guerre, c'est bien l'armée ukrainienne qui est rentrée en guerre avec un arsenal qui était largement soviétique. Et le problème de cet arsenal, surtout sur l'artillerie, même sur les chars, hein, c'est les mêmes taux d'usure que ceux des Russes, c'est qu'on arrive en fait au bout de l'exploitation de ce potentiel-là. Parce que les munitions manquent et parce que les capacités de production n'étaient pas assez importantes, parce que il y a tout simplement pas assez d'artillerie, parce que cette artillerie est usée, parce que les chars eux-mêmes sont de génération antérieure à celle que les Russes utilisent et que il n'y a pas de capacité de production, simplement de restauration. Les Ukrainiens sont confrontés à un besoin non pas de maintenance ou de réparation, mais bien de substitution de leur arsenal soviétique existant. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des mois de la guerre, l'aide occidentale devient aussi déterminante. Parce que on est obligé d'assurer le maintien et la montée en puissance en fait ukrainienne de plus en plus. Et pour l'instant, on a réussi à compenser cet effort par le legs des arsenaux soviétiques qui restaient en Europe de l'Est. Mais maintenant, ça force effectivement. On parle d'économie de guerre. Ça demande, si on tient à la poursuite des efforts ukrainiens, à ce qu'on nous-mêmes on mette en place les filières de production d'obus, l'acheminement et une part du MCO hors de l'Ukraine des véhicules, et etc.
Philippe Bois.
Oui, peut-être. Comment dire, effectivement, sur justement, reprenons la fameuse affaire des munitions. En fait, on a effectivement une place. Les Ukrainiens, pour donner un métrique. Alors que les Russes tiraient plusieurs dizaines de milliers de coups par jour, comme on l'a évoqué, et que l'usure des stocks de munitions les amène à tirer maintenant environ, selon la plupart des sources, 15, 20 000 coups par jour, les Ukrainiens sont à 4, 5, 6, 7 000 coups par jour. C'est-à-dire que la différence de puissance de feu s'est quand même drastiquement réduite. Vous avez des colonels ukrainiens qui disent que à certains épisodes de la bataille de Bakhmout, par exemple, ou sur d'autres fronts, vous aviez quasiment un nivellement de la puissance de feu. Avec une artillerie ukrainienne qui reste en même temps beaucoup plus précise en règle générale que l'artillerie russe. Ce que les Russes d'ailleurs compensent par l'utilisation de munitions maraudeuses en contre-batterie, qui, là, en l'occurrence, est un des éléments qui marche très bien chez les Russes. Donc, revenons aux Ukrainiens. La fourniture de munitions, en fait, elle s'organise comment? Quel est le facteur essentiel? Comme vous l'avez vu avec Léo Périapeigné, il y a les stocks et puis il y a les flux. Les flux, soyons clairs, de production ne sont pas capables chez les Occidentaux d'accompagner, de fournir aux Ukrainiens une masse de munitions suffisante pour la consommation, en particulier si en même temps ils doivent tenir la ligne de front et en même temps avoir les stocks pour faire la contre-offensive. C'est ça l'enjeu. Hein. L'enjeu, c'est la préservation des stocks pour la contre-offensive. Et lorsque l'offensive sera lancée, pouvoir en même temps fixer les forces russes sur telle partie du front et en même temps avoir la puissance de feu nécessaire donc pour dérouler la contre-offensive dans la durée et appuyer, je dirais, les unités de mêlée dans la durée de cette contre-offensive. Et l'enjeu, il est là. Et les flux sont insuffisants. Et monter en gamme les flux, c'est quelque chose qui est d'un horizon temporel de moyen-long terme, certainement pas d'un horizon de court terme. Donc, ce sont les stocks. Et les stocks, c'est pas des stocks européens qui vous avez, c'est de l'ordre de quelques milliers et quelques dizaines de milliers de coups par puissance européenne. Donc c'est clairement les stocks américains. Alors les stocks américains, ils sont classifiés, on les connaît pas. En revanche, ce qu'on peut dire, j'ai regardé les documents, la documentation budgétaire américaine depuis 99, le moment où ils se sont remis à fabriquer des munitions. C'est qu'en 95, ils avaient 4 millions de coups de 155 mm en stock, un peu plus, entre l'armée de terre et l'US Army et les Marines, et donc ils se remettent à en produire en 99. Ils en ont produit à peu près, si vous faites, mettez tout bout à bout, les munitions, je dirais, unitaires, hein, de combat, pas les munitions d'exercice, etc. Ils en ont reproduit sur, donc, 25 ans, 4 millions. Combien ils en ont tiré? On ne sait pas. Combien des stocks qu'ils avaient donc en 95 ont nécessité remplacement, on ne sait pas non plus. On peut présumer que, comment, par rapport à des stocks qui étaient estimés comme suffisants, un peu insuffisants quand même en 95, qui étaient donc de 4 millions de coups, avec la réduction du format des armées américaines qui s'est poursuivie jusqu'à la fin des années 90 environ. La réduction post-guerre froide, on peut penser que ces stocks, vraiment à la louche, c'est combien, 3-4 millions de coups, 3-4 millions de munitions, on peut penser vraiment à la louche, hein, c'est une estimation. Or, les Américains en ont livré 1 100 000, en tout cas, ce sont les chiffres donnés par l'assistance américaine. Les chiffres qui ont fuité, on dira pas encore une fois lesquels, mais les chiffres qui ont fuité dans les documents confirment nos calculs quant aux dépenses de munitions ukrainiennes. Ça confirme tout à fait ce qu'on disait, c'est-à-dire entre 800 000 et 1 million de coups. Donc il y a de la réserve. La question, mais il y a de la réserve qui n'est probablement pas suffisante pour tout faire. C'est un peu dans le sens que se disait le ministre de la Défense Reznikov dans la lettre qu'il a adressée aux Européens en faisant les calculs de dépenses de munitions. si tout le parc d'artillerie russe, ukrainien, tirait à plein régime, on serait sur des volumes de tirs qui sont un peu sensiblement égaux à ceux des Russes, 15, 20 000 coups. S'ils tiraient de façon suffisante, on serait plutôt sur 10, 11 000 coups. Donc on voit que les 5, 7 et 5, 6, 7 000 coups ukrainiens actuels, on voit qu'il y a une forme de rationnement. Enfin, après, ils demandent sans doute beaucoup pour avoir moins, mais il y a quand même un déficit. Alors la question, c'est même au niveau d'utilisation actuelle de l'artillerie ukrainienne et de la part croissante que prennent dans ces 5, 6, 7 000 coups que prennent les munitions occidentales, c'est-à-dire qu'ils sont déjà largement plus de la moitié, et même pour certaines, voire quasiment c'est 5 à 10 pour 1, hein, en gros, la question centrale qui se pose, donc, c'est est-ce que les Américains peuvent continuer, voire accentuer la prise de risque sur leur stock de munitions au regard de leur plan de contingence ailleurs, dans lequel qui impliquerait une forte composante terrestre de l'armée et des marines. On pense à, imagine après, hein, les risques d'engagement au Moyen-Orient, en Corée, etc., etc. Donc la question, elle réside là, en fait. Soit la Maison-Blanche dit, fait valoir au Pentagone, tant pis, on prend le risque et on continue de fournir massivement aux Ukrainiens, et auquel cas l'affaire peut continuer au stade où elle en est, voire un peu plus dans les mois qui viennent. Soit le Pentagone dit à la Maison-Blanche, vous savez, on est quand même très court, on devient vraiment trop court, et nos stocks de réserve deviennent vraiment trop réduits en cas de, et donc ça signifie une prise de risque stratégique beaucoup trop importante, et auquel cas la fourniture se réduira mécaniquement. Et c'est le facteur critique en réalité.
Alors justement, ça pose la question, ça permet d'aborder les perspectives immédiates, puisque évidemment, on sait que l'Ukraine est en train de le faire, de masser des forces, de masser des équipements, avec les brigades qui sont en train de constituer. La question, c'est de savoir quand et comment elles vont être utilisées pour une offensive, dont on comprend que les Ukrainiens, elle a intérêt à être bien cette offensive, parce qu'il n'y aura pas forcément énormément d'essais, et que le dispositif russe, là en ce moment, il est en train de se renforcer, le dispositif défensif, est quand même très 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 fort. Il y a plein de bonnes analyses là-dessus sur Twitter. Il y a vraiment des fortifications qui sont en train d'être construites par les Russes sur le long de la ligne de front. Donc la question, c'est... On va pas prédire l'issue de tout ça parce que c'est idiot. C'est le meilleur moyen d'avoir tort. Par contre, ma question, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder. Je l'ai dit un petit peu au début, mais on est évidemment très très obnubilé par les cartes depuis le début de cette guerre. On passe son temps à fixer des images de GPS. Bon, il y a aussi les nécessités médiatiques de la télévision par rapport à ça, mais vraiment, ça fait quelques temps qu'on se met à surveiller le moindre pâté de maison du côté de Bakhmout. Et je suis pas sûr que ce soit forcément les choses les plus critiques qui permettent de prédire ce qui va se passer sur le long terme, et c'est d'ailleurs ce dont on parle depuis le début de l'émission, c'est-à-dire c'est des choses qui sont moins visibles, en tout cas sur le terrain, qui se comptent moins en mètres et plus en unités d'hommes ou de matériel. Donc ma question, c'est, cette offensive, elle va venir, très probablement, à votre avis, à l'un et à l'autre, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce qu'il faut regarder et comment est-ce que, à votre avis, on peut espérer se rendre compte de la tournure que ça prend? Est-ce que c'est des questions de personnel, est-ce que c'est des questions de matériel, etc. À votre avis, quels vont être les indicateurs à suivre d'ici l'offensive et surtout à mesure qu'elle sera en train d'être développée? Je ne sais pas qui veut commencer. Philippe Gros?
Il y a les deux aspects, on en a parlé déjà, donc de l'assistance en termes de l'arrivée, je dirais, parce qu'on sait déjà les volumes d'équipement qui sont promis, mais de la durée d'arrivée des volumes d'équipement, premier élément. Deuxième élément, les plans de formation, on n'en a pas parlé, hein, mais d'entraînement, de formation au sein des trois grandes, on va dire, des trois grandes opérations, hein, Interflex avec les Britanniques, de l'unité de la task force américaine en Allemagne, et surtout parce que là, en termes de volume, c'est l'Union européenne, hein, sous l'autorité de l'amiral Bléjean, qui fait, je dirais, en termes relatifs, l'effort le plus important. Et donc, quand je dirais les délais de mise en œuvre, je dirais des plans d'entraînement, des 8-9 brigades qui sont formées par les Occidentaux en termes de la formation technique au matériel, et puis la formation toutes armes collective de niveau bataillon. Et donc là, vous avez ces délais, je dirais, de formation. On sait que l'effort a vraiment décollé massivement à partir principalement du mois de décembre. Donc est-ce que, en gros, entre décembre et mai, les Occidentaux devraient avoir arrivé à former le nombre d'unités pour lesquelles les Ukrainiens les ont sollicités? Donc ça, c'est l'autre point qui est tout aussi important que celui du matériel. Et donc l'intégration des équipements et des soldats formés. Il y a aussi ce qu'il faut voir, c'est quel est l'amalgame avec les unités expérimentées sur le terrain. Parce que c'est pas si vous avez fait des classes de 5 semaines, parce que les Occidentaux forment beaucoup des troupes, des soldats récemment mobilisés, qui n'ont aucune expérience et auxquels il faut faire des classes accélérées, de 4-5 semaines dans les bataillons, dans les bataillons considérés. Et donc, quel est l'amalgame avec les unités, avec les soldats expérimentés des autres unités, sur le terrain, etc., etc. Donc, il y a toute une dynamique, je dirais, de régénération de potentiel ukrainien, qui est à prendre en compte, tant sur le plan, humain que sur le plan matériel. Ensuite, il y a, comment, effectivement, il y a quand même, et or, le problème, c'est que ça, les Ukrainiens, pratiquent une sécurité des opérations absolument remarquable. Et il y a beaucoup d'éléments. On a, de façon générale, c'était une contrainte qu'on a avec Vincent dans le cadre de cette étude et de toute façon dans le suivi qu'on fait depuis 1 an, et comme tout le monde d'ailleurs, comme tous les observateurs, hein, comme tous les analystes, c'est qu'en fait, on finit par en savoir beaucoup plus sur les Russes que sur les Ukrainiens eux-mêmes. C'est toujours le même problème. Et il y a suffisamment d'éléments qui ont fait valoir de déclarations indirectes des autorités américaines ou autres qui montrent que eux aussi, d'ailleurs, il y a un déficit de connaissances sur ce que font les Ukrainiens, même si là, l'offensive ukrainienne a été, les Ukrainiens ont fini par se retourner vers les Occidentaux, et l'offensive a été au moins dans le test des modes d'action, aussi, il y a plusieurs semaines, hein, les états-majors occidentaux ont aidé les Ukrainiens à tester leurs modes d'action. Et donc, ce qui est à observer sont vraiment sur ce plan-là, des signes indirects, les livraisons d'équipements, les rotations d'unités, dans les centres d'entraînement, etc., etc. Mais soyons clairs, les informations dont on a eu écho là récemment, sur le fait que la possibilité que l'offensive ukrainienne soit retardée tard dans le printemps, voire à l'été, sont tout à fait crédibles au regard des délais de fourniture d'équipements occidentaux, d'intégration de ces équipements, de remise en état de ce qui peut l'être sur la ligne de front. Et d'ailleurs, à court terme, pourquoi les Ukrainiens devraient se dépêcher? Pourquoi? L'appareil russe s'use, a exploité, on le disait tout à l'heure, la plus grosse partie de ses réserves. La seule chose qui peut arriver dans le courant de l'année, c'est que les Russes finissent par mettre sur pied leurs deux, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais leurs deux fameuses usines, alors avec quel personnel, on ne sait pas, mais leurs deux fameuses usines pour accroître un peu la surface portante, on va dire, de leur capacité de réparation. Le reste, les Russes en reviennent à une logique de contractualisation, dont on peut vraiment fortement douter de l'efficacité. Donc, en gros, si vous voulez, les Russes vont petit à petit céder l'initiative aux Ukrainiens. Mécaniquement. Après l'avoir repris à la fin de l'année, à la lumière de cette offensive, les Russes vont probablement recéder l'initiative aux Ukrainiens. Et donc, à partir de là, si les Ukrainiens doivent attendre 1 mois ou 2 supplémentaires, ça paraît logique qu'ils le fassent. Après, au-delà de ça, effectivement, moi, sur le format de l'opération, sur la forme opérationnelle que pourrait revêtir la contre-offensive, effectivement, vous mettez tout à fait le doigt là-dessus, c'est que les opérations, les actions de contre-mobilité, d'une part, d'autre part, la densité, quand même, du dispositif russe, qui n'a rien à voir avec celui de l'automne. Même si la plupart des unités russes ne sont plus opérationnelles à l'offensive, il y a quand même une densité en termes d'hommes, plus que d'équipements, on l'aura bien compris, hein, mais en tout cas d'hommes, les opérations de contre-mobilité qui sont faites, etc., font que il y a des chances que ça se termine beaucoup plus comme une opération comme il y a eu à Kherson que comme à Kharkiv. C'est-à-dire que la manœuvre dans la grande profondeur sur le centre de gravité provoquant l'effondrement de l'appareil du dispositif russe, ça ne veut pas dire qu'il faut l'exclure. Hein. C'est possible que ça se passe comme ça, parce qu'en plus, ça va cueillir un appareil russe qui va être usé complètement, y compris sur le plan moral et mental. Donc c'est possible que ça se passe comme ça. Néanmoins, c'est pas le scénario le plus crédible. Le plus crédible, c'est qu'on soit sur quelque chose de plus incrémental, comme à Kherson. Et donc ça signifie avec un taux d'usure, et d'où d'ailleurs toutes les incertitudes sur le volume de la masse de manœuvre de contre-attaque ukrainienne. Hein, c'est une douzaine de brigades, à peu près 3 corps, 75 000 hommes. Donc le volume de cette masse de manœuvre ukrainienne, qui va pas s'user trop vite avant d'atteindre des résultats déterminants dans cette contre-offensive. C'est toute la question qui se pose.
Vincent Touré, sur ce qu'il a observé, sur ce qu'il a anticipé, sur cette contre-offensive ukrainienne.
Philippe a parfaitement exprimé les principaux points. Je vais juste rajouter, on va dire, un petit complément sur la partie russe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vis-à-vis de la partie russe, on est un peu face à un phénomène de les causes donnent les mêmes effets. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'avez pas de réarticulation profonde de la façon dont ils font cette guerre. Ils vont faire des influx d'hommes, de matériel, autant que faire se peut. Mais pour l'instant, la façon dont ils utilisent ces moyens ne change pas. Vous êtes sur une stratégie de pure attrition mécanique, qui donne donc très peu d'effets. Et donc, si vous voulez, en plus, quand on voit pour l'instant les adaptations qu'ils font, a priori, ils veulent revenir à une structure purement en division. Donc, si vous voulez, en plus de rester sur un même modèle, ils prennent des décisions qui ont tendance à accroître la tension sur la cohésion de leurs forces. Parce que, par exemple, le passage aux divisions, ça demande quoi? Ça demande plus d'officiers, ça demande plus d'encadrement. Déjà que c'est difficile pour eux de gérer les divisions qu'ils ont à l'heure actuelle, sans parler même de leur simple brigade, la volonté de faire passer l'armée russe à, j'ai vu, 1 500 000 hommes, à créer, c'est quasiment une dizaine de divisions supplémentaires, alors qu'on voit bien en fait qu'il n'y a ni les stocks ni les hommes qui suivent, et ni les compétences qui montent, il ne peut pas y avoir de résultats différents que ce qu'ils font depuis le début du conflit. Et c'est pour ça qu'on est face à une situation absolument paradoxale, où, en fait, depuis un an et 2 mois, l'Ukraine, en fait, ne fait que gagner, ses batailles en Ukraine. On est face à une situation où la Russie ne fait que perdre. Et ça pose une question de la soutenabilité de l'effort de guerre russe et de la capacité des victoires ukrainiennes sur le terrain à prouver à la Russie qu'elle ne peut pas gagner cette guerre. Et donc on est face à une contradiction qui apparaît devoir se maintenir pendant très très longtemps, avec un pouvoir russe qui va continuer à injecter des forces et des moyens dans un conflit qu'il ne gagne pas parce qu'il n'a pas de solution alternative pour remporter le conflit, et l'Ukraine va être obligée de continuer à faire des offensives et va devoir les faire, et c'est ça qui est compliqué, c'est que pour le coup, elle ne peut pas se permettre autant de défaites que ce que la Russie peut prendre. Donc on est vraiment face à une équation qui est très incertaine.
Très bien, bah, c'est une équation qu'on va évidemment continuer de suivre dans les jours, les semaines et les mois qui viennent, notamment à l'approche de cette contre-offensive. On pourra évidemment, le cas échéant, en reparler, faire un droit de suite à cette émission, parce que ça nécessitera probablement d'être actualisé à un moment ou à un autre. Dans tous les cas, je vais rappeler donc les références de cette étude que tout le monde peut télécharger évidemment librement sur le site de la FRS, intitulée donc Guerre en Ukraine, analyse militaire et perspective. Donc vous êtes les deux auteurs, donc Philippe Gros et Vincent Touret. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci infiniment,
merci à vous.
Merci beaucoup.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, ainsi que appréciations, retours, etc., etc., notamment sur les outils d'Apple Podcast ou de SoundCloud. Ce sont toujours des retours bienvenus et qui, par ailleurs, aident grandement à faire connaître aussi le podcast. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.